Revue de presse avec David Abiker.
Salut Philippe, c'est la sobriété énergétique et les mesures que le gouvernement annoncera aujourd'hui qui font la une des journaux ce matin.
Oui, des mesures tous azimuts pour les dernières nouvelles d'Alsace qui détaillent ces dispositifs, tout comme le Parisien aujourd'hui en France, qui voit le gouvernement abattre ses cartes alors que l'Est républicain parle de retour de la chasse au gaspillage. Quoi qu'il en soit, la France va devoir se mettre au régime sobre, estime Les Échos, dont l'éditorialiste Lucie Roquebin prévient qu'il faut se méfier des trois illusions qu'alimente le discours du gouvernement. Faire croire notamment que cette sobriété énergétique est non inflationniste avec une neutralisation des hausses de prix et des boucliers tarifaires qui n'auront qu'un temps. La deuxième illusion est de faire croire, selon notre consoeur, que la sobriété énergétique ne détruira pas d'emplois et enfin que Vladimir Poutine est l'unique responsable de nos difficultés. Enfin, Libération avec une très belle une qui représente une personne vêtue d'un col roulé qui lui remonte jusqu'au sommet du crâne, se demande si nous sommes prêts pour la sobriété et si face à la crise énergétique, le gouvernement est frileux ou énergique.
Et Philippe Bourg, l'Europe s'engage aussi pour tenter de surmonter cette crise.
Après des mesures en ordre dispersé face à la flambée du prix du gaz et de l'électricité, et notamment la semaine dernière avec l'annonce surprise d'un plan de soutien de 200 milliards d'euros de l'Allemagne, jugé très perso, la Commission européenne propose de plafonner temporairement le prix du gaz. Selon le Figaro, cette mesure, si elle est adoptée, signifierait que l'Europe surmonte ses divisions, des divisions qu'on ne devrait pas voir aujourd'hui à Prague, où se tient le premier sommet de la communauté politique européenne, qui réunit les dirigeants de 44 pays. 44 pays qui lancent un nouveau cadre de coopération, titre Les Échos, tandis que La Croix voit l'Union européenne tenter de rassembler l'Europe, alors que Libé et l'opinion plus caustique qualifient cette nouvelle entité d'amibe politique et d'objet politique non identifié. L'opinion rappelle que c'est Emmanuel Macron qui a suggéré l'idée de cette OPNI en mai dernier devant le Parlement européen à Strasbourg, mais que depuis, le chef de l'État fait profil bas et a laissé la main sur ce dossier au chancelier allemand Olaf Scholz et au président du Conseil européen Charles Michel.
Le bel Charles Michel. L'Opinion, le journal qui alerte à sa une sur les chiffres qui font peur concernant l'armée française si elle devait se déployer dans un engagement majeur.
Et ces chiffres, Jean-Dominique Mercher, qui signe ce dossier, les tire des méthodes de calcul utilisées par l'état-major de l'armée de terre, qui indique notamment que dans le modèle militaire français, une brigade de 6000 hommes et 1500 véhicules blindés tient 20 km de front, sachant qu'actuellement la France a la capacité de déployer un corps d'armée d'infanterie de 25 000 soldats. Le calcul est simple, 6 000 hommes pour tenir 20 km, ça fait donc 83 km pour 25 000 soldats. Ce qui veut dire que si demain l'armée française était déployée dans un engagement majeur de haute intensité, comme c'est le cas en Ukraine en ce moment, elle ne pourrait tenir qu'un front très restreint correspondant à la distance entre deux villes, comme Lille et Dunkerque ou Strasbourg et Mulhouse. Un constat inquiétant, conséquence de la transformation depuis 30 ans de l'armée française en une force expéditionnaire, c'est-à-dire très légère et mobile et donc adaptée aux nombreuses opérations extérieures auxquelles elle a participé, mais alors pas du tout adaptée aux engagements de masse. Or, comme le reconnaissent certains hauts gradés, alors que l'armée française vivait dans un relatif confort opérationnel, l'invasion de l'Ukraine a été un vrai point de bascule et rien ne dit, selon Jean-Dominique Mercher, que lors de la discussion au Parlement au début de l'année prochaine de la nouvelle loi de programmation militaire pour la période 2024-2030, il faille s'attendre à des bouleversements majeurs dans la doctrine militaire française.
Comme ça se passe d'ailleurs en Allemagne. Il est question du net virage à gauche de Sciences Po dans Le Monde daté d'aujourd'hui.
Oui, Le Monde consacre en effet un article à un livre qui sort aujourd'hui dans lequel les deux auteurs, tous deux chercheurs au CEVIPOF, proposent une radiographie des étudiants de l'institution de la rue Saint-Guillaume, qui a fêté ses 150 ans, je le rappelle, en juillet, au regard de la précédente enquête, elle menée en 2002, qui passait au crible leur mode de vie, leurs idées, leurs valeurs et leur culture politique. Et ce qui ressort sur ce dernier point notamment, à travers 5000 questionnaires, c'est que le virage à gauche, déjà patent il y a 20 ans, s'est nettement accentué, passant de 57 à 71%, alors que dans l'ensemble de la population française, les 18-26 ans ne sont que 41% à se définir de gauche. Une nette majorité des étudiants de Sciences Po, 55%, ont ainsi voté Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle en avril, c'était déjà le cas en 2017. Il ressort également de cette enquête que les femmes sont désormais les plus politisées. Une étudiante sur deux présente, selon cette enquête, un indice fort de politisation contre un étudiant sur trois, exactement l'inverse de la situation en 2002. En revanche, le wokisme a du mal à percer. Pour 53% des étudiants de Sciences Po, cette dérive de la cancel culture soulève, je cite, une appréciation négative.
Et vous avez trouvé, Philippe, un dossier passionnant proposé par le Pèlerin.
Oui, ce dossier de 14 pages que propose le Pèlerin est en effet consacré aux bonnes bonnes nouvelles de la recherche contre le cancer. C'est le titre à la une du magazine. On y découvre les progrès de la prévention et du dépistage, la révolution des traitements et l'innovation dans les soins. On y apprend par exemple que le rugby, comme certains malades peuvent le pratiquer grâce à une association toulousaine, peut aider à surmonter la maladie, non seulement parce que la pratique d'un sport réduit, selon l'Institut National du Cancer, de 50% les risques de récidive et peut améliorer l'efficacité des traitements, mais surtout concernant le rugby, sport de contact dans tous les sens du terme, que sa pratique, soft et bien encadrée, aide à développer l'envie et l'énergie de se battre contre la maladie. Et nous sommes bien placés tous les deux pour savoir que quand on se bat contre le cancer, on peut le vaincre.
Merci Philippe. 8h41, nous sommes en direct avec Christian Marcarian et avec Marc Lambron. Nous allons parler Russie, Ukraine...